Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, Mel Emmanuel.
Merci de choisir Radio de la Paix, vous êtes sur la bonne fréquence. Appréhender les enjeux économiques du retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO pour la résilience de la Côte d'Ivoire, cela figurait au titre des objectifs du 5e forum de centre d'études prospectives CEP. Interdiction de fabrication et commercialisation des produits azotés et dérivés. Dans ce journal, vous aurez les raisons et implications de cette décision de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Actualité sur le continent, réforme du franc CFA au Sénégal. Pour l'économiste Almounir Ndiaye, battre sa propre monnaie est fondamental pour prendre son envol vers la souveraineté. Et nous nous intéresserons aussi à l'attaque au drone perpétrée par l'Iran en Israël le week-end dernier. Les implications de ce nouveau conflit seront abordées avec l'invité de la rédaction, le professeur Bamba Abdoulaye. Il est spécialiste des relations internationales. Bonjour à tous. Retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Quelles conséquences politiques, économiques et humanitaires pour les États de l'AES et de la CEDEAO? C'était le thème du 5e club prospectif du Centre d'études prospectives CEP, tenu le vendredi 12 avril dernier à Abidjan. L'objectif de cette édition visait à appréhender les enjeux du retrait des États de l'AES de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de formuler des propositions selon les initiateurs. Jean-Claude Mabéa.
Les pays membres de l'AES qui ont décidé de quitter la CEDEAO ont énormément de relations tant économiques et humaines avec la Côte d'Ivoire, d'où ces propositions du professeur Lambert Ngaladio Bamba, expert économiste au CIRES.
L'idéal, c'est qu'on puisse aller à une sorte de négociation pour que leur sortie ne devienne pas effective. Sinon, si elle devenait effective, ce serait aussi bien dommageable pour eux que pour nous. Mais en tant qu'économistes, nous savons qu'il y a des capacités de résilience. Donc, quel que soit le scénario final, on finira toujours par s'adapter sur le plan économique.
C'est de leur droit de décider de leur avenir, mais il s'agira pour la Côte d'Ivoire de réduire sa dépendance des pays de l'AES, estime Dr Sylvain Nguessan, expert en géopolitique.
C'est de terminer le port sec de Ferke, de l'enrichir, vraiment de le sécuriser. Deuxième chose, nous aussi chercher à avoir une autonomie à l'interne au niveau de la production du bétail et de certains produits. Nous sommes dépendants de ces pays-là. Il faut chercher à améliorer la production interne.
La diplomate Fanta Cissé, représentante résidente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, a émis un vœu au terme de ce forum d'échange.
Nous espérons que ces pays ne vont pas partir définitivement de la CEDEAO parce que ce sont des pays frères. Et l'intérêt pour nous, c'est de réaliser cette intégration régionale tant souhaitée par les chefs d'État et surtout faciliter ces échanges intracommunautaires entre nos pays.
Elle a souhaité que de telles initiatives se poursuivent afin de renforcer l'intégration régionale.
Nous continuons à parler des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. Ils ont décidé le 28 janvier dernier de quitter la CEDEAO, une décision qui aurait des incidences sur le plan économique. Aujourd'hui, en matière de production animale et halieutique, la Côte d'Ivoire dépend en grande partie de ces trois États que sont le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Les actions de l'État ivoirien pour réduire cette trop grande dépendance nous sont expliquées par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré. C'était le vendredi dernier lors du 5e club prospectif du Centre d'études prospectives.
Quelques indicateurs relatifs à notre dépendance sur la production animale essentiellement dans notre contexte sous-régional. Toutes spéculations confondues, nous ne produisons qu'à peine 40% de ce que nous consommons en production animale. Sur les produits laitiers, c'est à peine 86% de ce que nous consommons, c'est énorme. Parlons uniquement de la production animale. Aujourd'hui, nous avons décidé, avec l'accord du président de la République et sur les institutions du Premier ministre, de réhabiliter nos anciens ranches cétacées. l'ancien et fameux projet Sodepra. Et aujourd'hui, à Bungali, nous avons l'ancien dispositif de près de 10 000 hectares que nous avons dédié désormais à la production et à l'amélioration génétique pour la production de bétail avec un centre d'application pour accompagner les jeunes et les femmes qui veulent se lancer mais qui sont déjà dans le secteur de la production animale au niveau de Bungali à Pania. Pour ce qui est de Wangolo, nous avions aussi là-bas 2500 hectares pour la production animalière que nous avons dédié à l'amélioration génétique pour le lait au niveau de Pania à Wangolo et Badika que nous avons 55 000 hectares là-bas qui étaient destinés à la production d'aliments ou bétail et que nous allons réhabiliter à l'effet de produire de l'aliment pour le bétail. Tout cela reprend une démarche cohérente qui vise notamment à trouver les ressources structurelles d'accompagnement et l'augmentation de la production interne pour faire face à nos besoins de consommation.
Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, était au micro de Jean-Claude Mabéa. Ouvrons une page santé dans ce journal. Les produits atotés, la paix et ses dérivés présentés comme des aphrodisiaques naturels à base de plantes sont interdits à la fabrication et à la commercialisation. Ainsi en a décidé l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique AIRP qui, dans un communiqué publié le 11 avril dernier, indique que ces potions buvables, contrairement à leur qualité de produits naturels, contiennent plutôt du sildenafil, un produit chimique médicamenteux indiqué dans la prise en charge des troubles de l'érection. Sur les raisons et les implications de cette décision, écoutons le sous-directeur de l'inspection et de la surveillance du marché pharmaceutique à l'AIRP, Dr Nguessan Boussan Jean-Marie.
Le sildenafil, c'est un médicament qui est issu de la synthèse chimique. C'est-à-dire que dans la production des médicaments, on est arrivé à formuler ça de façon chimique.
Alors, cette substance, donc le sildenafil que vous citez dans ce communiqué, en quoi cette substance est incriminée?
Alors, ce n'est pas le sildenafil lui-même qui est incriminé, mais ce sont les produits atotés et la paix. Ici, le problème, c'est que je dis, je fabrique un médicament à base de plantes. Or, quand nous faisons un contrôle qualité, dans le cadre de la surveillance du marché pharmaceutique, les résultats nous montrent qu'il y a des substances chimiques, notamment le sildenafil. Cette substance chimique n'est pas issue de plantes, mais issue d'une synthèse. Cela veut dire qu'on a introduit de façon volontaire dans ces préparations un autre médicament qui est issu de la chimie et qui n'est pas une plante. Ces produits atotés et la paix, qui se disent être fabriqués à base de plantes et donc sont des produits naturels, contiennent une substance chimique, en l'occurrence ici le sildenafil. Donc ce n'est pas le sildenafil qui est incriminé. Il faudrait qu'on le comprenne. Le sildenafil étant donc un médicament, se trouve régulièrement enregistré en Côte d'Ivoire et donc se trouve dans les officines de pharmacie sous différents noms. Le problème, c'est parce que étant une substance chimique, il ne devrait pas se retrouver dans ces produits dits à base de plantes.
Le sous-directeur de l'inspection et de la surveillance du marché pharmaceutique à l'AIRP, Dr Nguessan Boussan Jean-Marie, était en ligne avec Jean-Claude Comé. Toujours santé, la commémoration de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose a été marquée par une série d'activités organisées par le Programme national de lutte contre la tuberculose. Ainsi, des séances de sensibilisation et de dépistage ont été organisées à Sangon Abiaté 2, Sangon Agban, Sangon Braté, Sangon Godoumé et à Sangon Dagbé. Le sous-préfet de Sangon fait ses recommandations auprès de toutes les couches sociales de la commune après quelques semaines de sensibilisation. Série Balier Jean-Marc.
Pour parvenir à profiter de ce nouvel Abidjan que propose la commune de Sangon, il faudra être en parfaite santé. Je voudrais insister sur le caractère insidieux et perfide de cette maladie. C'est pourquoi, à l'ensemble de la population de Sangon, je voudrais vivement recommander que dans le cas où vous constatez dans votre entourage une toux d'une quelconque nature, vous puissiez prendre attache avec les services sanitaires compétents pour pouvoir nous donner l'occasion d'écarter la tuberculose si les symptômes ne l'indiquent pas, mais de faire une prise en charge rapide pour éviter d'une part qu'une frange de la communauté soit touchée par cette maladie et d'autre part que le malade lui-même puisse être sauvé. Je voudrais donc, dans une perspective d'avenir, engager les chefs de village, les leaders communautaires, les leaders religieux, les représentants d'associations de femmes, les représentants d'associations de jeunesse à participer activement et efficacement à cette campagne.
Le sous-préfet de Sangon, Seri Balier Jean-Marc, dans des dires recueillis par César Yao. Valorisation des créations intellectuelles des chercheurs, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI, et l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OIPI, ont signé le vendredi dernier à Abidjan une convention visant à valoriser les créations intellectuelles des chercheurs. Elle permettra de renforcer la protection de la propriété intellectuelle en Côte d'Ivoire en offrant un cadre adéquat pour la reconnaissance et la valorisation des créations intellectuelles des chercheurs, inventeurs et innovateurs. Sangaré Yaya, secrétaire général du FONSTI.
L'un des objectifs majeurs de cette convention, c'est de promouvoir la culture du brevet dans notre pays. Généralement, nos chercheurs et enseignants-chercheurs produisent des résultats scientifiques de qualité, mais leur destination finale, dont je parle des résultats de nos recherches, sont les publications scientifiques, essentiellement dans la perspective de progression au niveau des carrières de nos enseignants-chercheurs. Mais ce que nous voulons faire avec l'OIPI, c'est d'aider nos chercheurs à protéger leurs résultats de recherche. Parce que c'est à travers les brevets que la recherche scientifique peut impacter réellement le développement économique et social de notre pays. C'est à travers les brevets qu'on peut créer de la richesse et des emplois dans notre pays. Donc, avec l'OIPI, nous allons travailler pour mieux former nos chercheurs, à leur faire comprendre qu'au-delà des publications scientifiques, si nous voulons que la recherche ait un impact sur le développement réel de notre pays, il est important que nos chercheurs et nos enseignants-chercheurs s'intègrent dans cette dynamique de déposer des brevets pour protéger leurs résultats scientifiques et nous aider à créer des entreprises en Côte d'Ivoire dérivées de la valorisation économique des résultats de recherche.
Les propos du directeur général de l'OIPI. Pour le directeur général de l'OIPI, cette convention va permettre à l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle d'apporter l'accompagnement nécessaire aux chercheurs dans le processus de protection et de valorisation de leurs innovations. Docteur Assandé Kofi Paul.
Cette convention va donner un cadre juridique, un cadre de travail, de collaboration pour permettre aux deux structures de travailler sur les axes de développement, les axes de recherche, de telle sorte que demain la Côte d'Ivoire puisse disposer d'un écosystème d'innovation susceptible de porter la politique de transformation structurelle voulue par les autorités. En termes d'axes, nous voulons travailler d'abord à accompagner les chercheurs qui bénéficient du financement du FONSTI dans la protection de leurs innovations. Très souvent, nos chercheurs restent dans le domaine académique, donc font des recherches, ils trouvent des choses intéressantes, mais juste publiés dans des articles pour leur permettre d'avancer en grade. À travers cette convention-là, l'OIPI, dans le cadre de sa mission, va les accompagner désormais pour qu'au-delà de l'avancement en carrière qu'ils recherchent, que les innovations puissent être protégées pour permettre donc à ces chercheurs-là de tirer davantage de profit et au pays également d'en bénéficier. Le deuxième axe, l'OIPI, en tant que structure nationale de représentation de l'OMPI, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, a accès aux bases de données, aux ressources scientifiques de qualité. Et donc cette collaboration également va nous permettre de mettre à disposition des chercheurs cette base de données pour leur permettre d'affiner leurs recherches pour des résultats plus pertinents.
Les propos du directeur général de l'OIPI, Dr Assandé Kofi Paul, et avant lui ceux du secrétaire général du FONSTI, Sangaré Yaya, ont été rapportés par Paul-Bénédicte Bolou. Hors de nos frontières, la question du franc CFA refait surface au Sénégal après la prise de pouvoir du duo Diomaye Faye, Ousmane Sonko. Pour l'économiste sénégalais, professeur Al-Mounir Ndiaye, loin de rompre les amarres avec la France, la question de battre monnaie est fondamentale pour le Sénégal afin de prendre son envol vers la souveraineté et le développement. Nous l'écoutons.
La dépendance monétaire ne nous a pas permis quand même de tirer notre épingle du jeu sur le plan économique. La garantie, c'est bien, nous remercions les Français, mais aujourd'hui, il est venu temps de mettre un terme à tout cela. Maintenant, ce que dit Ousmane Sonko, ce n'est pas ce que le procès qu'on est en train de faire pour chercher des problèmes avec la France ou avec les Occidentaux. Loin de là, l'idée de Ousmane Sonko. L'idée de Ousmane Sonko aujourd'hui et du président Bassirou Diomaye Faye, c'est de tirer les leçons du passé et de trouver la meilleure formule qui permettra aux pays africains de tirer les épingles du jeu sur le plan économique, de régler le problème de pauvreté, de chômage et de régler le problème de déficit sur le plan international. La monnaie qui est évoquée ici au Sénégal, ce n'est pas une monnaie nationale prioritairement. C'est vrai qu'il est prévu que si les processus et les mécanismes ou bien les procédures, les actions qui sont menées pour mettre en œuvre la monnaie CDAO n'aboutissent pas, libre au Sénégal, dans un futur peut-être proche ou lointain, de penser à une monnaie nationale. Mais Ousmane Sonko a fait la précision. Nous n'envisageons pas au Sénégal, pour le moment, une monnaie nationale. Ce qui est envisagé, c'est de faire tout pour que la monnaie éco qui est envisagée dans le cadre de la CEDEAO, même si on trouve une autre formule, soit parachevée et que les pays africains puissent avoir le coup des franges pour pouvoir décider sur le plan monétaire et asseoir un système bancaire qui pourra permettre au système africain de trouver des leviers financiers pour maîtriser la logistique, la finance internationale et de se développer.
Vous écoutiez l'économiste sénégalais, le professeur Al-Mounir Ndiaye. Nous quittons le Sénégal pour un retour au pays, précisément dans les studios de Radio de la Paix. Le week-end dernier, l'Iran a lancé plus de 300 drones et missiles contre le territoire israélien. Une attaque en représailles à une frappe israélienne contre son consulat en Syrie. Pour en parler, l'invité de la rédaction, professeur Bamba Abdoulaye, enseignant en histoire des relations internationales, nous explique les implications de ce nouveau conflit qui s'ouvre dans le Moyen-Orient.
Professeur Bamba Abdoulaye, bonjour.
Bonjour.
À peine les armes commencent à se taire dans le cas du conflit Hamas et l'État d'Israël, il y a encore un autre front qui s'ouvre entre l'Israël et l'Iran. Est-ce que c'était une situation qui était prévisible?
Oui, pour l'observateur de la situation au Moyen-Orient dans la région depuis le 7 mars, ce n'est pas une surprise. C'est encore moins une surprise lorsque le 1er avril, Israël s'est attaqué aux intérêts iraniens en Syrie. Donc, on s'attendait évidemment à une riposte de la part de l'Iran pour deux ou trois raisons. La première raison, montrer aux alliés d'Israël que l'Iran ne reculera pas. La deuxième, montrer même à la population iranienne que le pays a les moyens de se défendre et de riposter en cas d'attaque. Donc pour toutes ces raisons, l'observateur n'est pas du tout surpris de ce qui est arrivé.
Vous parliez donc de cette attaque du consulat iranien en Syrie. Rappel donc des faits. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, Israël estime que la Syrie est devenue une base arrière pour l'Iran et que l'Iran est en train de mettre en place tout un dispositif militaire et donc se sentant un peu en insécurité, Israël a attaqué le consulat iranien en Syrie, faisant plusieurs morts et des destructions de matériel. Et naturellement, l'Iran estime qu'il fallait riposter, montrer également à Israël sa capacité de riposter.
Alors justement, plusieurs drones sont lancés à l'endroit d'Israël, des drones qui ont été interceptés. Alors, pour mieux comprendre cette inimitié entre ces deux pays-là, pourquoi Israël et l'Iran s'entendent pas?
Alors, il faut remonter un peu dans l'histoire. Depuis la révolution iranienne, l'Iran a été présenté comme un ennemi farouche d'Israël. Et il faut aussi dire honnêtement que les autorités iraniennes ne s'en sont pas cachées, puisque un des présidents iraniens avait annoncé que tôt ou tard, Israël disparaîtrait de la carte du monde. Donc une telle déclaration, franchement, n'est pas du goût d'Israël. Mais en même temps aussi, la posture d'Israël vis-à-vis de la Palestine, du Hezbollah et de la Syrie surtout, qui bénéficie du soutien de l'Iran, a aussi envenimé la situation. Et les derniers événements depuis le 7 octobre, avec plus de 30 000 morts du côté palestinien, constituent un ensemble d'éléments qui sont venus donc envenimer cette animosité qui a toujours existé entre les États. Mais je précise que c'est la première fois que l'Iran intervient directement comme ça sur le sol israélien.
Dans cette attaque, l'Israël a le soutien des pays comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et bien d'autres puissance. Alors, pourquoi cette position affichée, justement, de ces pays?
Depuis la création de l'État d'Israël, Israël a toujours bénéficié du soutien de ces pays, notamment les États-Unis. Et même lors du conflit avec les Hamas depuis le 7 octobre, on a vu que ces puissances-là ont soufflé le chaud et le froid. Tantôt, elles ont soutenu ouvertement Israël, elles ont défendu son droit à se défendre. Tantôt, elles ont demandé à Israël de faire attention et réduire au maximum de destructions. Mais elles ont tous été des soutiens à Israël et ça, elles ne sont jamais cachées à ce niveau-là. Ce qui maintenant est intéressant à analyser, c'est quelle va être la suite qui va être donnée donc à cette réaction iranienne.
Justement, les autorités israéliennes laissent entendre une riposte hein, et en réponse aussi, les autorités iraniennes menacent d'aller crescendo donc dans cette attaque. Est-ce que tout cela n'est pas de nature à encore créer une situation plus conflictuelle dans cette zone si elle n'est pas déjà conflictuelle?
Elle l'est déjà et elle va gagner en intensité si effectivement Israël décide de riposter. Et là, c'est à ce niveau que la médiation au niveau de la communauté internationale et surtout au niveau des alliés va compter. Vous savez, comprendre à Israël la nécessité de ne pas réagir, mais je ne crois pas que Benjamin Netanyahu puisse accepter cela. Mais en toute cette cause, on est dans une situation de déflagration et donc l'ONU, tous ceux qui veulent intervenir pour trouver une solution
pacifique à cette situation, la chose est bienvenue, sinon je crains fort qu'il y ait un embrasement total.
Alors, à côté donc des alliés donc à Israël, il y a une voix qui tente l'Égypte d'appeler au calme. Comment vous qualifiez cette position de l'Égypte, hein, qui est un pays arabe?
Alors, vous savez qu'il y a longtemps que l'Égypte s'est démarquée de cette posture radicale vis-à-vis de l'État israélien, ce qui a d'ailleurs permis à l'Égypte de bénéficier du soutien économique des États-Unis depuis plusieurs années. Et donc, l'Égypte a plutôt des rapports très modérés avec Israël, ce qui a vraiment plus de contentieux territoriaux entre eux. Donc, c'est normal, et l'Égypte essaie de devenir un pont entre les deux parties pour trouver une solution, je dirais, pacifique.
Avec ce contexte, faut-il craindre pour l'avenir proche?
Oui, il faut craindre parce que l'Iran est une puissance militaire qui a les moyens pour se défendre, et Israël est une puissance militaire qui bénéficie du soutien des États-Unis et de certaines puissances occidentales. Imaginez donc une opposition. Je ne dirais pas que ce serait une troisième guerre mondiale, mais on n'en serait pas loin.
Professeur Bamba Aboulaye, je vous remercie.
Merci beaucoup à vous et à très bientôt.
Sur la situation qui prévaut entre Israël et l'Iran, vous écoutiez l'invité de la rédaction, professeur Bamba Aboulaye, enseignant en histoire des relations internationales. Il répondait aux questions de Jean-Claude Comé. Maintenant, le rappel des titres de ce journal. Appréhender les enjeux économiques du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO pour la résilience de la Côte d'Ivoire, cela figurait au titre des objectifs du 5e forum du Centre d'études prospectives CEP. Et puis actualité sur le continent, réforme du franc CFA au Sénégal. Pour l'économiste sénégalais Almounir Ndiaye, battre sa propre monnaie est fondamental pour un envol vers la souveraineté et le développement. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite le parcours de la presse ivoirienne de ce jour avec Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à tous. Que disent vos journaux de ce jour sur l'ouverture du Massa 2024? Sur ce sujet, le journal gouvernemental Fraternité Matin consacre plusieurs pages à cet événement qui réunit plus d'une cinquantaine de pays sur une semaine. Selon le Premier ministre Robert Begremombe, que je cite, « La Côte d'Ivoire est heureuse d'offrir